Voilà, on commence l'année de façon un petit peu particulière, spéciale, avec un verset aussi. J'aime bien nous donner aussi un verset pour l'année, un fil conducteur. Je pense que c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur depuis les débuts que je suis ici, cette année, pour l'année. Ces deux versets d'1 Corinthiens 16, 13 à 14, ils seront assez faciles à mémoriser. Vous l'avez sur le memento. Hein. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts, que l'amour inspire toutes vos actions. Alors ce verset, je l'ai reçu il y a déjà en tout cas 3-4 mois, je pense 3 mois environ. Donc ce n'est pas lié ni aux circonstances qu'on a vécues ces derniers jours, mais je crois vraiment que c'est rare d'habitude. Voilà, j'ai plus d'hésitation à trouver un verset, mais celui-ci où ces deux versets se sont imposés à moi, et je l'ai partagé aussi aux anciens, qui étaient OK avec ça. Le premier culte de l'année, c'est toujours un moment particulier. On tourne une page, on en ouvre une autre. Finalement, ça ne fait pas beaucoup de choses. Hein. Juste une page de calendrier qui change. On est un peu plus gros le lendemain parce qu'on a un peu plus mangé, enfin en principe. En tout cas, moi. Voilà, beaucoup font des projets, prennent des résolutions, espèrent un changement. On se souhaite une bonne année. Et le drame de Crans-Montana survenu récemment nous a tous bouleversés. Des vies ont été fauchées, des familles plongées dans le deuil, une région entière secouée, voire au-delà, l'Europe. Ce drame nous rappelle de manière brutale que la vie est fragile, que rien n'est garanti et que nos lendemains ne nous appartiennent tout simplement pas. Ça ne nous appartient pas. La question essentielle... Quelle sera la force motrice de notre marche en 2026 ? C'est quoi qui va nous animer ? C'est quoi qui va vous mettre en route ? Quel sera le moteur de vos actions finalement ? En 2025, on a été encouragé, ça a été rappelé, à lire le Nouveau Testament, parce que je crois que notre foi, elle ne doit pas être mystique, mais elle est basée sur quelque chose de concret, c'est-à-dire la parole de Dieu. Je me rends compte qu'on est... On a beaucoup de choses, des réseaux sociaux, on a des super sites, on lit des bribes de versets. Il y a énormément de livres, par contre, qui circulent. On lit, il y a une connaissance, on a la tête qui enfle avec la connaissance. Par contre, la Bible, j'ai l'impression, même si on la possède sur nos smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs, en différentes traductions, différentes choses, on la connaît de moins en moins. Et je crois que c'est le fondement de la foi. Autrement, eh bien, on imagine des choses sur Dieu, on pense que Dieu est comme ci ou comme ça, puis finalement, on se rend compte que c'est juste des présupposés. Beaucoup de gens ont une foi historique parce qu'on les a conduits dans une église à faire des choses et autres, mais ils ne connaissent pas ce Dieu vivant et vrai. Parce qu'ils ont plus adopté une religion, la religion de leurs parents ou du groupe de leurs grands-parents, mais ils n'ont pas cette communion, cette relation avec le Dieu vivant et vrai. Et pour avoir une relation, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Et sans cette parole de Dieu, finalement, on ne connaît pas grand-chose. On ne connaît pas grand-chose. Alors, 2025, c'était cette lecture de la parole. Je m'étais lancé dans un projet complètement fou, faire un mini commentaire avec toujours « Et pour nous aujourd'hui ». Des fois, je me dis « Mais t'es complètement zinzin, mon gars ». Donc je suis arrivé à la fin d'Apocalypse. Et c'est vrai que les derniers chapitres de l'Apocalypse, avec ses décès, avec ses choses, ça a été quand même compliqué. On est arrivé au bout et je suis très reconnaissant aussi pour ce que j'ai vécu en étudiant cette parole aussi, pour transmettre Voilà quelques éléments qui nous aident aussi dans notre compréhension, qui vous donnent des pistes pour aller un peu plus loin. Et on va commencer en 2026, eh bien, l'Ancien Testament. Ah, je vois déjà, c'est dur, hein, l'Ancien Testament, 2026. Mais rassurez-vous, on ne va pas le lire en une année, mais en trois ans. Parce que il y a déjà un peu plus de chapitres, un peu plus de versets. Et on va répartir ça. Il y a un plan. Il y a un plan. Donc ça, c'est pour toute l'année 2026. Il y aura 2027-2028. Donc du lundi au samedi, cette fois. Il y a un bonus, il y a le samedi. Le samedi, c'est pour le Nouveau Testament. Un passage du Nouveau Testament. Donc on va commencer dès demain avec la Genèse. Et ça sera réparti entre 20 versets et 40 versets environ. Voilà, pour pas que ça soit trop long non plus et qu'on arrive au bout des trois ans, eh bien au bout de l'Ancien Testament. Ça sera varié aussi, donc on va pas lire Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome tout à la suite, mais il y aura des psaumes qui vont entrecouper. Enfin, vous verrez, vous découvrirez aussi quelques psaumes, des proverbes aussi, donc qui vont aérer un peu les psaumes. Donc tout ça sera sympa. Par contre, je ne m'engage pas à vous fournir un commentaire tous les jours, mais vous trouverez sur inscription ou WhatsApp la possibilité d'avoir la partie « Et pour nous aujourd'hui ?» Donc, plus que le commentaire, parce que je ne vais pas arriver sur trois ans. Là, j'ai tenu toute l'année, mais je pense qu'il faut être raisonnable. Donc il y aura le « Et pour nous aujourd'hui » tous les jours, ça je m'y engage avec l'aide et la grâce de Dieu, voilà, mais pas le mini-commentaire. Donc il y aura toujours un Google Docs et puis la possibilité de recevoir par WhatsApp sur inscription le petit résumé. On a une piste de lecture « Et pour nous aujourd'hui » et puis après c'est pas ce « Et pour nous aujourd'hui » c'est pas la parole de Dieu. C'est des pistes de réflexion qui vous aident à dire « Ben oui, tiens, j'avais peut-être pas vu ça sous cet angle. » Mais la parole de Dieu, c'est uniquement la Bible. Moi, ce que je vous transmets, c'est humblement un mini-commentaire ou quelque chose, voilà, une piste de réflexion. Mais après, c'est juste pour vous lancer. Parce que des fois, c'est un peu difficile quand on se trouvera dans les Nombres ou dans le Deutéronome. Merci pour vos prières, quoi, voilà, pour que je ne dise pas trop de bêtises. Voilà, si l'on en revient à notre texte, on voit qu'à la fin de sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul adresse une série de recommandations, courtes, fortes, presque comme un testament spirituel. Elle s'adresse à une église confrontée à des divisions, des tensions, des défis moraux aussi. Et dans ce contexte, Paul ne donne pas d'abord une stratégie, mais une attitude de cœur. Dans ces deux petits versets, il y a comme une attitude de cœur à avoir. Au centre de tout, il place une phrase simple, mais décisive, que l'amour inspire toutes vos actions. Verset 14. Et le titre de mon message, c'est une église ferme, courageuse et aimante par rapport à ce passage. On va lire quelques versets avant et après ce texte, histoire de se placer un petit peu dans le contexte d'un Corinthiens 16. Et c'est l'apôtre Paul donc qui a écrit ce texte. « Je compte venir chez vous après avoir traversé la Macédoine. » Car je vais passer par cette province. Peut-être séjournerai-je quelque temps chez vous, ou même y passerai-je l'hiver. Ce sera pour vous l'occasion de m'aider à continuer mon voyage vers ma destination. En effet, je ne peux pas me contenter de vous voir en passant. Je compte demeurer quelque temps avec vous, si le Seigneur le permet. Pour le moment, je vais rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action. En même temps, que beaucoup d'adversaires. Sympa, hein ? Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il se sente à l'aise parmi vous, car il travaille à l'œuvre du Seigneur tout comme moi. Que personne ne le méprise donc. À son départ, fournissez-lui les moyens de revenir dans la paix auprès de moi, car je l'attends, lui et les frères qui l'accompagnent. Quant à notre frère Apollos, je l'ai encouragé à plusieurs reprises à se joindre aux frères qui retournent chez vous, mais il n'a pas du tout l'intention d'entreprendre ce voyage maintenant. Il ira certainement dès qu'il en trouvera l'occasion. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. Que l'amour inspire toutes vos actions. Encore une recommandation, frères et sœurs. Vous connaissez Stéphanas et sa famille. Vous vous souvenez qu'ils ont été les premiers à se convertir au Seigneur dans toute l'Achaïe. Vous savez qu'ils se sont spontanément mis au service des membres du peuple saint. Soumettez-vous, vous aussi, à de telles personnes et à celles et ceux qui partagent leur travail et leurs efforts. Alors à Corinthe, Paul y a prêché pendant environ 18 mois. Ça, on le sait historiquement, vers les années 50 à 51 après Jésus-Christ, il a fondé une église dynamique, mais divisée. Et ça, si vous avez lu la lettre de Paul aux Corinthiens, vous avez vu combien cette église était compliquée, divisée, pénible. Après avoir quitté Corinthe, Paul reste en contact par lettre et aussi avec des messagers. Il n'y avait pas encore l'email ou la poste comme on la connaît. Mais voilà, il reste en contact. Il va écrire une première lettre, aujourd'hui perdue. C'est en Corinthiens 5,9, où il dit dans 1 Corinthiens 5,9, « Dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans l'immoralité sexuelle. » Donc ça nous laisse supposer qu'il y a une première lettre perdue et qu'on n'a pas dans notre Bible. Puis, il y a la première épître aux Corinthiens, écrite vers l'an 54 après Jésus-Christ, depuis Éphèse. Ça, on l'a lu aussi, où il va dire, pour le moment, donc un Corinthien au verset 8, qu'on a lu, pour le moment, je vais rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Donc, il y a différents détails qui sont marqués dans cette lettre. Et dans cette lettre, Paul rappelle l'essentiel de l'Évangile. Jésus-Christ crucifié et ressuscité, seul fondement de la foi et seule source de l'unité du peuple de Dieu. Donc il met beaucoup l'accent sur Jésus-Christ. Il appelle les croyants à grandir dans la sainteté, dans l'amour fraternel, à vivre selon l'Esprit et pas selon le monde. Et à travers cette lettre, Paul nous montre comment l'Évangile transforme la vie personnelle, communautaire, sociale des croyants. Et son message, centré sur Christ crucifié, rencontre un certain succès, malgré beaucoup de tensions internes. Relisez cette lettre de Paul aux Corinthiens, il y a des divisions autour de divers leaders. Paul ne faisait pas forcément l'unanimité. Hein. On parle de Paul, d'Apollos, de Pierre, enfin, toutes ces choses. Il y a des inégalités sociales. Ça, on le vit aussi encore aujourd'hui, des querelles judiciaires, il y a des désaccords sur les relations sexuelles, voilà, il y a de la nourriture aussi sacrificielle. On sortait de la période des sacrifices hein, entre les deux testaments aussi. Il y a des désaccords, des mariages bizarres aussi, la résurrection sur la Sainte Cène et même sur l'autorité de l'apôtre Paul. Donc, ce n'est pas une période forcément facile, mais Paul... Eh bien, aimait cette Église. Et ce matin, au travers de ces deux petits versets que je vous propose pour l'année, eh bien, on va voir une Église, l'importance, c'est les versets 13, 14, 15, une Église appelée à la vigilance et à la fermeté dans un monde instable. On va voir l'amour, c'est la motivation absolue de toutes nos actions et un amour qui se traduit concrètement par le service. Déjà, une Église appelée à la vigilance et à la fermeté dans un monde instable. Ce verset 13... C'est l'intégralité du verset, ça fait quatre injonctions si on veut bien. Soyez vigilants, je les ai placées de cette manière-là pour bien mettre l'emphase. Demeurez ferme dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. Et ces paroles montrent le contexte spirituel tendu de l'église de Corinthe. Ce n'était pas évident, être vigilant. Il y avait des influences dangereuses, des compromis, des luttes internes. Paul sait que la vie chrétienne, ce n'est pas une promenade tranquille. Et le drame de Crans-Montana nous rappelle aussi cette réalité. On vit dans un monde fragile, imprévisible, parfois brutal. Être vigilant, ce n'est pas vivre dans la peur, mais c'est reconnaître que chaque jour, c'est un don, c'est un cadeau. Être vigilant. Être vigilant, c'est peut-être aussi se souvenir de ce que la parole de Dieu dit, hein, dans l'Apocalypse notamment, mais Jésus en parlait déjà lorsqu'il est remonté au ciel. Jésus revient. C'est de se dire, mais Jésus revient. Est-ce que je suis prêt ? Demeurer ferme dans la foi, ce n'est pas nier la douleur. Ce n'est pas dire de toute façon, ce n'est pas faire fi de la douleur, non. Mais c'est s'accrocher à Dieu quand tout vacille. S'accrocher à Dieu. Ce n'est pas dire tout va bien, non. Ce n'est pas nier, faire abstraction de ce qui va mal dans ce monde. Mais c'est regarder plus haut, c'est regarder à Jésus. Faire preuve de courage, c'est continuer à espérer quand le choc est encore là. Être fort, ce n'est pas être insensible, mais c'est tenir debout, même avec les larmes. C'est ça aussi. Et ce n'est pas parce qu'on a une force intérieure qui fait que on tient debout, mais c'est parce qu'on a cette force extérieure qui se manifeste dans notre intérieur, c'est-à-dire Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et c'est une personne. On entre en 2026 dans un monde incertain. Désolé, je ne veux pas casser le moral à personne. Parfois hostile à la foi. Il y a rempli de contradictions aussi. En février 2022, la Russie va envahir l'Ukraine. On se dit, waouh, bon, la Russie, l'Ukraine, c'est assez loin de chez nous. OK. Hier, Trump attaque le Venezuela et capture le président. OK. Alors, personne ne va peut-être le pleurer ou autre, parce que c'était aussi un dictateur sanguinaire et autre. Il n'y a plus de tabou, finalement. Enfin, du coup, prochainement, la Chine risque de se sentir libre de prendre Taïwan. Vu que les États-Unis font ci, donc les autres... On est dans un monde instable, un monde compliqué, et on pourrait tomber dans la panique, mes amis. Mais la parole de Dieu ne veut pas ça. La parole de Dieu nous dit « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts ». Mais Paul ne parle pas ici d'une force arrogante ou agressive. Il parle d'une fermeté enracinée dans la foi, d'un courage qui vient de Dieu. La vigilance sans amour devient de la dureté. Et la fermeté sans amour devient de la rigidité. C'est pourquoi le verset 14 vient immédiatement poser le cadre de ce qui précède aussi, qui nous parle bien évidemment de l'amour. On y reviendra. Que l'amour inspire toutes vos actions. C'est la même structure que les chapitres 12, 13 et 14 d'un Corinthiens. Incroyable. Même structure. Dans Corinthiens 12, Paul présente la diversité des dons spirituels, leur complémentarité dans le corps de Christ. Super, on aime bien les dons spirituels. On croit que c'est encore actuel, ce n'est pas juste pour une période, ce n'est pas passé. La Bible reste actuelle et on ne peut pas dire ça c'était pour le passé, ça c'est pour le présent, ça c'est pour le... Non, la Bible, Dieu elle-même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Mais juste après toute cette manifestation des dons, les Corinthiens le faisaient, mais ils se chicanaient quand même pas mal. Il y a le chapitre 13 d'un Corinthien, et il place l'amour comme fondement. L'amour. Il dit, tu peux avoir tous les dons, mais si tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale qui résonne. Tu n'as rien du tout, finalement. C'est le sens de valeur des dons. Enfin, au chapitre 14, il montre aussi comment exercer ses dons, surtout la prophétie, les langues, de manière ordonnée et édifiante, toujours guidée par l'amour. On trouve ça dans 1 Corinthiens 14. Écoutez le verset 2 du chapitre 13. « Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance... Si j'avais même toute la plénitude de la foi, jusqu'à transporter les montagnes. Sans l'amour, je ne serais rien. Sans l'amour, je ne serais rien. Sans l'amour, je suis rien. » Incroyable, hein ? Donc ça, ça me fait penser, voilà, à ces versets 13 et 14. Donc, une église appelée à la vigilance, à la fermeté dans un monde instable, et l'amour comme motivation absolue de toutes nos actions. Que l'amour inspire toutes vos actions. Ce verset, c'est le cœur battant de ce passage. Paul ne dit pas « faites quelques actions d'amour ». Mais il dit que toutes vos actions soient motivées, inspirées, traversées par l'amour. C'est différent. Hein, c'est pas juste faire une bonne œuvre de temps à autre. C'est que tout ce qu'on fait, finalement, soit motivé par l'amour. Face à un drame comme celui de Cran, on réalise que les explications sont limitées, que les mots sont parfois insuffisants, les discours peuvent même blesser, mais il reste une chose qui ne trompe pas et qui ne déçoit pas, c'est l'amour vécu, reçu. Dans le contexte des Corinthiens, une église riche en dons, mais pauvre en relations, Paul rappelle une vérité essentielle, sans amour, même les meilleures œuvres perdent leur valeur. C'est une église où il y avait des dons spirituels, il y avait des trucs, ça en jetait, hein. On aimerait bien et on croit vraiment aux dons. On est une église aussi pentecôtiste, charismatique. On croit aux dons spirituels, à l'expression des dons, mais dans un contexte donné par la parole là aussi. Donné par la parole. Et l'église des Corinthiens était puissante. Il y avait des dons, il y avait des trucs, des prophéties et autres. Super. Mais Paul leur monte les chaussettes. Il leur donne 1 Corinthiens 13. En leur disant, ben, sans amour, finalement, vous êtes comme une cymbale qui résonne. Et l'amour, ce n'est pas une émotion passagère, c'est l'amour qui cherche le bien de l'autre. On parle pas, aujourd'hui, c'est un mot biaisé hein, dans notre monde. L'amour supporte aussi dans la douleur, l'amour pardonne aussi. L'amour sert sans calcul. Aujourd'hui, le pardon. Qu'est-ce que c'est difficile ? Qu'est-ce que c'est difficile ? Et pourtant, ça reste le centre de la prière que notre Seigneur a apprise à ses disciples. C'est tellement court. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Waouh. Comme nous pardonnons. Je m'arrête là. Hein. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Des fois, je me dis, oups. Ça veut dire que je suis en train de te dire, Seigneur, que si je ne pardonne pas, je suis en train de te dire, pas me pardonner, quoi. Enfin, c'est juste une réflexion. L'amour efface pas la souffrance, mais empêche la souffrance d'être solitaire. Pour 2026, la question, c'est pas seulement que ferons-nous, mais surtout avec quel esprit est-ce qu'on va le faire. Servir, oui, mais avec amour. Témoigner, oui, mais avec amour. Être ferme dans la vérité, oui, mais avec amour. Vous savez, si vous servez, et puis que vous ronchonnez après, en disant « c'est toujours moi, puis les autres, jamais ». Ben, finalement, on doit se poser la question sur la motivation de notre service. Notre service. Alors, c'est peut-être vrai hein, que c'est toujours moi, puis les autres, jamais. Mais en même temps, là aussi, servir avec amour. Être ferme dans la vérité, oui. Dire la vérité, c'est important. C'est Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Mais là encore, avec amour. L'amour ne supprime pas la vérité, il la rend audible. L'amour ne remplace pas la foi, il la rend visible. Et mon dernier point, il faut que j'avance, hein, ça sera encore là l'année prochaine. Un amour qui se traduit concrètement par le service. Paul termine en citant un exemple précis, celui de Stéphanas et de sa famille. Encore une recommandation, frères et sœurs, vous connaissez Stéphanas et sa famille. Vous vous souvenez qu'ils ont été les premiers à se convertir au Seigneur dans toute l'Achaïe. Vous savez qu'ils sont spontanément mis au service des membres du peuple saint. Ils ne sont pas contentés de croire, ils se sont mis spontanément au service des membres du peuple de Dieu saint, c'est-à-dire mis à part, c'est-à-dire sanctifiés, c'est-à-dire qui sont mis à part dans ce monde pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une auréole sur la tête, ça veut dire être mis à part pour Dieu. Voilà ce qui se produit, ce que produit un amour authentique. Il s'engage, il sert, il bénit concrètement aussi la communauté. On ne sait pas grand-chose, ce Stéphanas. Il est dans les salutations. C'est une lettre, hein, la lettre aux Corinthiens. Mais quand même, on le salue et on dit quelque chose d'intéressant sur lui. C'est qu'il a rendu des services. Il s'est mis au service. Waouh. Et on ne sait rien d'autre sur lui. La Bible dit rien. Voilà. Alors, Paul parle ici d'un amour théorique, mais d'un amour incarné, visible par des actes quotidiens. Et après le drame, comme on a entendu, les médias vont le rappeler aussi, le monde n'a pas besoin de grandes théories, mais de présence fidèle. Quand il y a un drame autour de nous, dans nos familles ou autres, un décès ou quelqu'un qui est malade, il n'y a pas besoin de grandes théories. Il y a besoin d'une présence fidèle, d'un geste simple, d'une solidarité concrète, une présence. Paul ne parle pas d'un amour théorique, mais d'un amour incarné, visible dans les actes du quotidien. Et pour ce début d'année, l'amour se manifestera dans l'accueil, l'amour se manifestera dans la patience, l'amour se manifestera dans le service discret, mais fidèle aussi, sans attendre forcément un retour d'applaudissements. Et une église qui commence l'année dans l'amour commence l'année, selon moi, dans la bonne direction. Dans la bonne direction. Alors en conclusion, 2026, je formule de mes voeux qu'elle soit une année marquée par l'amour. En ce premier culte de l'année 2026, on commence cette année conscient de notre fragilité, plus que jamais. Touché par la souffrance. Beaucoup le sont autour de nous. Entendu, il y a des deuils, des maladies portées par l'espérance en Jésus-Christ aussi. Et la parole de Dieu nous appelle à un engagement clair, vigilant mais aimant, ferme dans la foi mais rempli de grâce, courageux mais guidé par l'amour. Alors que ce verset devienne notre phare dans la nuit, que l'amour inspire toutes vos actions. Que l'amour inspire toutes vos actions. Mes frères et sœurs, si l'amour inspire nos paroles, nos décisions, nos projets, notre service, alors cette année ne sera pas seulement une année de plus, mais une année porteuse de consolation, de témoignage et de gloire de Dieu. Je le crois sincèrement. Je le crois sincèrement. Ce n'est pas un verset de la Bible. Mais je crois sincèrement. Alors pour cette année 2026, soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi. Et pour demeurer ferme dans la foi, il faut avoir des fondations. Et je crois plus que jamais que nos fondations, c'est la parole de Dieu. Il y a tellement de bruit qui court, tellement de choses qu'on entend, tellement de choses qui peuvent être angoissantes aussi. Sans cette fondation de la parole de Dieu, eh bien nos vies vacillent. C'est ce roc. La parole s'est faite chair. La parole était Dieu. La parole est Dieu. Relisez l'évangile de Jean, chapitre 1. La parole, c'est Jésus. Et on a besoin de cette parole pour demeurer ferme dans la foi, pour faire preuve de courage, pour être fort. On n'a pas besoin de méditation ou d'incantation ou de choses de ce genre. On a besoin de la parole de Dieu. Et du Saint-Esprit qui agit en nous. Amen.
Amen.
Amen. Alors que le Seigneur console ceux qui pleurent, relève ceux qui sont brisés, et que le Seigneur fasse de nous aussi des instruments de son amour dans cette année 2026. Même si en retour, on ne nous aime pas. Quand on nous félicite, quand on nous remercie, c'est agréable. C'est toujours très agréable. Mais ça va au-delà. Eh bien, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous aider à être vigilants. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous aides aussi par ton esprit, par ta parole, à demeurer ferme dans la foi. Seigneur, c'est toi aussi encore et toujours qui nous aide à faire preuve de courage. C'est toi, Seigneur, qui nous aide aussi à être fort en toutes circonstances. Mais Seigneur, sans toi, eh bien, on ne peut pas avoir ce véritable amour. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que l'amour inspire toutes vos actions. Ben, Seigneur, sans toi, eh bien, notre amour est fade. Sans toi, notre amour peut être intéressé par ce qu'on fait dans un but, pour recevoir. Mais Seigneur, toi, tu as témoigné du véritable amour, tu es l'amour. Eh bien, Seigneur, aide-nous à être attachés à toi, Seigneur, afin qu'on puisse te refléter aussi dans nos actes d'amour, Seigneur. auprès des gens qu'on va rencontrer, peut-être des gens en souffrance qu'on va rencontrer. Seigneur, merci de nous aider. Seigneur, dans cette nouvelle année, à te refléter et à te faire honneur, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.